Il est 8h10 à Port-au-Prince, c'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques. C'est avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond et bienvenue à tous. On va tout d'abord parler du limogeage du secrétaire d'État américain Max Tillerson par le président Donald Trump. Il l'a annoncé il y a quelques minutes. On en parle dans votre revue de presse, Stéphanie Schuller. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
En Colombie, la course contre la montre du président Juan Manuel Santos pour sauver le processus de paix avec les rebelles de l'armée de libération nationale. Après la victoire de la droite aux élections législatives, il veut relancer ces discussions suspendues depuis fin janvier. Le président colombien qui veut faire cesser les violences, on l'entendra dans un instant. Le Mexique détient le triste record d'être le deuxième pays le plus dangereux au monde pour les journalistes après la Syrie, à Barcelone, en Espagne. Une association les accueille pour qu'ils puissent recharger leur batterie et être en sécurité. Et puis on ira en Haïti où la grève des douaniers est entrée dans sa deuxième semaine. Ils réclament un statut spécial et une hausse de leur salaire. On revient donc tout d'abord sur cette information en provenance de la Maison Blanche. Donald Trump se sépare du secrétaire d'État Rex Tillerson, Stéphanie Schuller.
Oui, annonce faite par le président américain il y a quelques instants sur son compte Twitter. Il nomme à la place celui qui était jusqu'à présent le directeur de la CIA, Mike Pompeo. Selon le Washington Post, Donald Trump a demandé vendredi dernier déjà à Rex Tillerson de quitter son poste. Ce lundi, le désormais ex-secrétaire d'État avait interrompu sa tournée dans divers pays africains pour rentrer à Washington. Il s'agit là d'un changement majeur dans l'équipe de sécurité nationale du président à l'aube de négociations délicates avec la Corée du Nord, ont rapporté ce mardi des membres de l'administration Trump sous couvert d'anonymat au Washington Post. Selon les informations de USA Today, Gina Haspel, jusqu'ici directrice adjointe de la CIA, va prendre la tête de cette agence de renseignement. Elle deviendra ainsi la première femme à ce poste. Les deux nominations, celle de Mike Pompeo et celle de Gina Haspel, doivent encore être confirmés par le Sénat américain.
Et Stéphanie, on revient à présent sur les élections législatives en Colombie. Cette annonce au lendemain du scrutin de l'actuel président Juan Manuel Santos qui souhaite une reprise des discussions de paix avec les rebelles de l'ELN, l'armée de libération nationale. On l'écoute.
Depuis la fin du cessez-le-feu bilatéral, il y a eu trop de morts des deux côtés. C'est ce que nous devons faire cesser. Et cela ne peut se faire que par le dialogue. Les arguments de la force doivent devenir la force des arguments. C'est pour cette raison, pour sauver des vies, et afin de parvenir à une paix complète en Colombie, que j'ai décidé de relancer les négociations de paix avec l'ELN. Nous retournerons donc à la table des négociations avec l'objectif le plus important que puisse impliquer n'importe quelle décision, celui de sauver des vies de Colombiens et consolider ses avancées en vue d'une paix qui sera ainsi la plus grande réussite de la génération actuelle de nos compatriotes.
Le président colombien Juan Manuel Santos lors d'une allocution télévisée hier soir. Stéphanie Schuller, cette annonce arrive dans un contexte particulier après la victoire de la droite conservatrice aux élections de dimanche dernier. Il faut donc faire vite pour sauver le processus de paix. C'est ce qui ressort de la presse colombienne ce matin.
Oui, absolument. S'il est très peu probable que Juan Manuel Santos arrive à la signature d'un accord de paix avec l'ELN avant la fin de son mandat en août, il doit au moins tenter de pousser ce processus jusqu'à un point de non-retour afin que son prédécesseur soit obligé de mener les négociations à leur terme, estime El Colombiano. Les pourparlers de paix à Quito reprendront donc avec deux points à l'ordre du jour, la participation des citoyens et les actions humanitaires nécessaires pour construire la paix, ainsi que l'établissement d'un accord pour un nouveau cessez-le-feu général et effectif, détaille Semana. El Heraldo salue le courage du président sortant. Le journal souligne que Juan Manuel Santos est soutenu dans cette démarche par l'Église, mais aussi par différents secteurs de la société civile colombienne, malgré le revers subi par les défenseurs du processus de paix lors des élections de dimanche.
La communauté internationale est également favorable à la reprise du dialogue avec l'ELN.
À l'instar de l'Organisation des États américains qui applaudit le retour du gouvernement et de la guérilla à la table des négociations à Quito, rapporte El Espectador.
Les Cubains ont également été appelés aux urnes dimanche dernier pour élire leur parlement en avril. Cette instance doit désigner le successeur de Raúl Castro.
Mais à en croire le nouvel El Heraldo, aujourd'hui, Anne, les Cubains se sont montrés moins disposés à participer au scrutin que d'habitude. Seuls 82,9% des votants se sont déplacés aux urnes. C'est la participation la moins élevée depuis 1977, constate le quotidien de Miami.
On reparle de Donald Trump qui est attendu en Californie aujourd'hui, où il doit aller voir entre autres les 8 prototypes du mur le long de la frontière mexicaine.
Au Mexique, ce projet est toujours rejeté par une large majorité de la population. Selon un sondage publié aujourd'hui par Excelsior, 60% des personnes interrogées se disent opposées à la construction du mur.
Et ce sera le premier voyage du président américain depuis son arrivée à la Maison Blanche, dans cet état de la côte ouest, traditionnel bastion du Parti démocrate.
Et les premières manifestations anti-Trump ont été organisées dès hier, rapporte Los Angeles Times, photo à l'appui. Pour de nombreux citoyens, le président Trump est l'antithèse des valeurs californiennes, écrit le journal. Un président qui promeut la division, la haine et le racisme n'est pas le bienvenu chez nous, ont scandé les manifestants. Donald Trump sait à quoi s'attendre, estime le Los Angeles Times, qui rappelle que la Californie s'était déjà montrée très hostile à son égard quand il était encore candidat. Ce mardi, de nombreux activistes organisent des démonstrations, une réalité à laquelle la Maison-Blanche doit s'adapter. Les lieux visités aujourd'hui par le président sont soit difficiles d'accès, soit tenus secrets.
Et les manifestants ont en tout cas le soutien des élus démocrates, Stéphanie.
Oui, à l'instar du président du Sénat californien, Kevin DeLeon, qui était parmi les protestataires hier pour s'adresser directement à Donald Trump. N'allez pas voir seulement Beverly Hills et vos petits bouts de mur. Prenez donc le temps de regarder et d'apprendre quelque chose du meilleur état de la nation, a lancé ce démocrate en parlant bien sûr de la Californie. Anne DeLeon s'est proposé même de faire à Donald Trump une visite à travers les quartiers à forte population immigrée de Los Angeles et de terminer par une halte dans son restaurant préféré de tacos mexicains, rapporte encore le journal, avant de conclure que cela vous plaise ou non, monsieur le président, la Californie et l'avenir de l'Amérique, ça promet, Anne.
Oui, et on finit cette revue de presse par un détour à Washington, où la commission du renseignement de la Chambre des représentants a rendu hier sa conclusion concernant l'affaire russe.
Cette commission, dominée par les Républicains, n'a trouvé aucune preuve de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie lors de la campagne présidentielle de 2016, écrit le Washington Post, qui précise « Les informations apportées par le camp démocrate n'ont pas été prises en compte. » Alors que les Républicains ne trouvent rien à redire, l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, en charge du dossier, prend de l'ampleur, constate de son côté le New York Times. Pour le quotidien The Hill, il n'y a plus de doute en ce qui concerne l'affaire russe. Le Parti républicain a vendu son âme.
Merci beaucoup Stéphanie Schuller. Direction l'Espagne à présent, où l'on s'inquiète du sort des journalistes mexicains. Le Mexique, qui est à présent le pays en paix le plus dangereux au monde pour les journalistes, il se classe derrière la Syrie dans le classement de Reporters sans frontières, avec plus de 23 000 homicides. 2017 a été pour le Mexique l'année la plus violente depuis 20 ans. Les journalistes qui travaillent notamment sur le thème du narcotrafic sont les plus visés par l'intimidation pour qu'ils cessent d'exercer leur profession. À Barcelone, l'association La Table pour le Mexique vient de développer un projet en collaboration avec la mairie pour accueillir ces journalistes ainsi que les défenseurs des droits humains mexicains qui sont en situation de danger. À Barcelone, le reportage de Laetitia Farine.
Selon la Fédération internationale des journalistes, le Mexique est le pays en paix le plus dangereux au monde pour les reporters. Face à cette escalade de violence, plusieurs mouvements citoyens d'expatriés mexicains ont formé à Barcelone l'association de la Table pour le Mexique pour lutter pour les droits de l'homme dans leur pays d'origine. L'un de ses principaux projets, c'est l'accueil temporaire de reporters mexicains à Barcelone, comme l'explique Jorge Jarillo, 36 ans, président de l'association.
Nous faisons venir les journalistes à Barcelone pour un certain temps qui varie de 3 à 6 mois selon la situation personnelle de chacun, pour qu'ils puissent être en sécurité et recharger leur batterie pendant un moment. Nous menons aussi un plaidoyer politique pour que les journalistes soient moins vulnérables et puissent rentrer au Mexique avec du soutien.
Martin Duran est l'un des premiers bénéficiaires de ce programme. Avant d'arriver à Barcelone au mois de novembre dernier, il couvrait pour un journal local l'actualité de Sinaloa, une province située au nord-ouest du Mexique. Depuis l'arrestation en janvier 2016 du chef du cartel de Sinaloa, El Chapo Guzman, deux bandes de narcotrafiquants se disputent le contrôle de la région. Une situation très compliquée pour les journalistes, comme l'explique Martin Duran.
Nous avions décidé de couvrir les événements, mais dès que nous avons commencé, une personne de l'une des deux bandes est venue me voir pour me demander d'arrêter notre publication. Ils m'ont d'abord demandé gentiment d'arrêter, ils m'ont demandé si j'avais besoin d'argent ou d'une voiture, ils ont voulu me soudoyer. Mais cela n'a pas marché et c'est là qu'ont commencé les intimidations. L'autre bande est alors venue me voir pour me demander de retirer notre publication. Ils m'ont dit que s'ils voyaient le journal dans les kiosques, alors ils nous tueraient.
Après la mort de plusieurs de ses collègues, Martin Duran a décidé d'abandonner la couverture des violences à Sinaloa. Pour lui, le journalisme au Mexique est devenu un métier trop dangereux.
Faire du reportage au Mexique, c'est avoir peur constamment, c'est comme marcher sur un champ de mine. On ne sait jamais quand quelque chose qu'on a publié pourra déranger quelqu'un. Il peut même s'agir d'un article anodin.
Pour David Listar, directeur de la coopération pour la justice internationale de la mairie de Barcelone, ce projet d'accueil de journalistes mexicains et le remboursement d'une dette historique.
Il faut se souvenir que le Mexique a accueilli entre 20 et 25 000 réfugiés espagnols après la guerre civile. Nous avons donc d'une certaine manière une dette historique que nous voulons rembourser en soutenant les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme mexicains qui souhaitent faire avancer leur pays en mettant un terme au crime organisé et à la crise au Mexique.
La mairie de Barcelone a prévu de dédier un budget de 200 000 euros à l'accueil de 4 journalistes mexicains par an.
C'était le reportage de Laetitia Farine à Barcelone.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité en Haïti à présent avec Godson Pierre d'Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour.
Et on va tout d'abord parler de cette grève des douaniers qui est dans sa deuxième semaine. Ils réclament un statut particulier et des hausses de salaire.
L'appel du ministère de l'économie et des finances en faveur de la reprise des activités n'a donc nullement été entendu. Toutefois, les grévistes annoncent cette semaine avoir établi des cellules d'urgence dans les principaux bureaux de douane afin d'assurer la livraison de produits d'ordre humanitaire. Ils mentionnent par exemple les médicaments, le sang humain, des antirétroviraux et des bouteilles à oxygène. La grève des douaniers a déjà des conséquences graves, particulièrement sur les industries de sous-traitance. 6 entreprises du secteur ont été fermées à cause de l'absence de matières premières, selon des informations communiquées aux médias.
La paralysie au Sénat à présent. Les sénateurs haïtiens ont décidé de se retrouver pendant 3 jours pour tenter de dépasser leurs divergences concernant le rapport d'enquête sur la gestion des fonds pétro-caribés à la Cour supérieure des comptes.
Ils tenteront, loin des micros et caméras, de trouver une entente sur plusieurs questions transformées en éléments de blocage. Une d'entre elles, peut-être la principale, le dossier du rapport sur la dilapidation de plusieurs milliards de dollars des fonds pétro-caribés. Ce document transféré à la Cour supérieure des comptes, alors que l'opposition parlementaire souhaitait que la question soit traitée au Sénat. Depuis cette résolution jugée irrégulière, la Chambre haute est paralysée et n'arrive pas à tenir séance, faute de quorum. Le groupe minoritaire n'entend participer à aucune séance sans que le dossier pétro-caribé ne soit réinséré dans les discussions.
Et dans ce dossier pétro-caribé, des plaintes ont été déposées devant les tribunaux par plusieurs citoyens. D'autres mobilisations sont prévues, Godson.
Un autre élément du contexte est que l'opposition ne semble pas chômée. Elle annonce de nouveaux mouvements de mobilisation contre le pouvoir en place. La question de la corruption est mise en avant. Des manifestations sont prévues cette semaine dans le sud, dans le nord, ainsi qu'à Port-au-Prince.
Et puis le bilan, un an après la prise de fonction du gouvernement en place, le Réseau national des droits humains dresse un piètre constat des actions politiques.
L'investiture de l'actuel gouvernement, c'était en effet en mars de l'année dernière, au cours de ces 12 derniers mois. En ce qui concerne les initiatives de l'exécutif, les annonces ont été plus nombreuses que les travaux réalisés, critique le Réseau national de défense des droits humains. Les résultats escomptés ne se sont pas matérialisés dans les domaines liés à l'économie, au développement et à la construction, définis comme axes prioritaires par le président Jovenel Moïse. Le réseau signale également une situation sécuritaire préoccupante et recommande à l'État de renforcer les institutions policières et judiciaires. Face à la détérioration des conditions de vie, il prône la mise en place de programmes effectifs de sécurité sociale.
Merci Godson Pierre. Toute l'actualité en Haïti est à retrouver sur le site www.alterpresse.org. Il est 14h24 à Paris, l'heure de retrouver le journal La Première Caraïbe présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
Et vous allez nous parler aujourd'hui du 5e comité interministériel pour la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Il s'est tenu hier soir à Paris.
Oui, l'occasion d'annoncer un nouveau plan d'investissement, près de 200 millions d'euros qui vont être alloués à la reconstruction des deux territoires. Du territoire de Saint-Martin, principalement, un tiers de cette somme étant financée par l'État. À la sortie de ce comité interministériel, le président de la collectivité de Saint-Martin, Daniel Gibbs, est apparu plutôt mitigé sur l'implication financière du gouvernement. Écoutez sa réaction au micro de Valentin de Leforterie.
Il y a un certain nombre de bonnes nouvelles que nous avons eues. Il y a d'autres choses, bien évidemment, où nous sommes un peu déçus. Mais rien d'insurmontable pour la collectivité. La collectivité assumera ses responsabilités sur la part qui lui est attribuée et fera le nécessaire pour que la population obtienne juste réparation pour le cas des personnes sinistrées sans assurance. C'est des choses sur lesquelles moi, en tant que président et mon équipe, sommes très sensibles et nous avons un budget le 12 avril à former, en fonction de tout ce qui nous a été dit aujourd'hui, et nous ferons en sorte que ces personnes aient une contribution de la part de la collectivité.
Les deux collectivités, Saint-Martin et Saint-Barth, ont également présenté hier au gouvernement leurs mesures pour préparer, la prochaine saison cyclonique qui arrive. Elle débutera en juin prochain. Saint-Martin a notamment prévu de créer, d'ici le mois de juin, de nouveaux abris pour sécuriser la population vivant dans des conditions précaires. Direction la Martinique maintenant avec la mobilisation contre les suppressions de postes et de classes dans l'éducation. Mobilisation qui gagne du terrain. Deux collèges étaient mobilisés. Il n'y a pas eu de cours hier alors que des enseignants réunis en intersyndicale se sont mis en grève. Une mobilisation dans l'attente d'une réponse après leur demande de rencontre avec le recteur d'académie, Pierre-Yves Honoré.
Malgré son statut d'établissement prioritaire, le collège de Terre-Saint-Ville n'est pas épargné par les compressions budgétaires. L'an dernier, une classe avait déjà été supprimée et ce sera de nouveau le cas cette année. Un professeur de mathématiques partant à la retraite ne sera pas remplacé. Il faut ajouter des postes partagés dans plusieurs matières, c'est-à-dire des enseignants qui vont devoir courir d'un établissement à un autre pour combler les heures manquantes. La première conséquence de ces mesures, ce sont les classes surchargées. Par exemple, la classe de 5e va passer de 21 à 28 élèves. Ce n'est pas possible, on ne peut plus ajouter deux tables, les classes sont trop petites, me confie un enseignant. Les élèves du premier rang n'arrivent plus à déchiffrer le tableau, ajoute-t-il, cela pose des problèmes de sécurité. La qualité de l'enseignement et le climat vont aussi prendre un coup. L'an dernier, 3 élèves ont été exclus définitivement. Un autre professeur me confie en aparté que durant une heure de cours, elle a recensé une vingtaine d'incivilités. Voilà un petit peu les conséquences de cette politique de compression budgétaire sur les établissements scolaires. Mercredi, une délégation de cette école sera reçue au rectorat.
Fin de cette édition. Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci, Benoît Ferrand. Très belle journée à vous. On termine en musique avec une chanteuse qui nous vient du Costa Rica, Debbie Nova, qui a collaboré avec Ricky Martin ou encore The Black Eyed Peas. Elle revient avec son 3e album, Gran Ciudad, et le titre, El Amor Lo Quito Todo. C'était Debbie Nova avec El Amor Lo Quita Todo. Merci de rester à notre écoute. C'est la fin de cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité d'Haïti et des Amériques. On se retrouve demain. En attendant, très bonne journée à tous.
Cette année, au Théâtre Le Tarmac, les traversées sont africaines. Au programme, 8 spectacles présentés pour la première fois à Paris. Des rencontres, des expositions, des performances. Rejoignons-nous pour mieux nous rencontrer. Les traversées africaines du 6 mars au 13 avril au Théâtre Le Tarmac. Réservation sur letarmac.fr en partenariat avec RFI.
RFI Talent présente les Amazones d'Afrique. Un collectif inédit unissant les plus grandes voix du Mali comme Mamani Keïta ou Rokia Kone. Réunis dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ces divas sont en concert le 17 mars à 20h30 à l'Embarcadère à Aubervilliers près de Paris. Plus d'infos sur www.banlieubleu.org.